podcast.com. Essaye ça.
Donc là, Jean-Philippe, on est rendu là, avec les deuxièmes grandes réponses, hein, très importantes, plus objectives que les premières. Oui, parce que les premières, c'était des témoignages auxquels je me fie à 110%. Par contre, là, que je suis très certaine des témoignages véridiques.
Ben, ça sentait la sincérité, en tout cas.
Exactement, oui. Puis c'était même, c'était bouleversant. C'était vraiment un beau moment de pouvoir discuter avec eux puis de voir que Michel avait des retrouvailles. Et eux aussi disaient qu'ils voulaient garder contact avec tous les enfants qui ont été confiés. Ouais. Puis Michel était le seul, je pense, qui avait pas... Ah, okay. C'est ça. Il y avait une question de, de garder vraiment le contact avec tout le monde. On se rappelle aussi que Michel avait eu d'autres bonnes familles d'accueil par la suite, hein, après le décès de Marcel. Donc là, je voulais faire le suivi avec le service correctionnel par rapport au dossier qu'on avait...
Ah, le fameux dossier.
Oui, le dossier de Marcel. J'ai appelé le service correctionnel en shakant légèrement des genoux parce que je me disais... Ça, c'est le genre de place que t'appelles là et que, en plus, je suis qui, moi? Tu sais, parce que moi, là, souvent, le monde, ouais, mais toi, t'as un permis d'enquête. Non, non. La pire chose qu'il n'y a pas à dire que t'as un permis d'enquête, là, c'est, t'as vraiment l'air d'une fouine. Mm-hmm. Les gens vont pas nécessairement. Tu sais, c'est plus pour quand je parle aux gens que je veux montrer que, écoutez, il n'y a pas de danger, je fais ça, tu sais, pour monter une certaine éthique professionnelle.
Tout à fait.
Mais si je m'adresse aux autres instances, là, je le dis le moins possible parce que...
Ben, c'est pas ça qui va les impressionner de toute façon.
Premièrement. Deuxièmement, je peux même avoir l'air un peu ce que je ne suis pas, quelqu'un qui cherche un peu à jouer à la police. Okay. Ou, tu sais, bon. Fait que moi, je me suis pas présentée en tant qu'enquêteur privé. Quand j'ai appelé au service correctionnel, je me suis présentée en tant qu'amie. Mm-hmm. Parce que oui, je me considère amie quand même avec Michel, un peu à distance de Montréal-Québec, mais je le considère vraiment comme un ami. Mais aussi comme la marraine un peu de ses démarches, parce que Michel est très, très autonome dans ses démarches. Mais c'est sûr que faire le suivi avec le service correctionnel, moi, mon
évident.
Horaire me permet, tu sais, Michel travaille sur la route, donc c'est pas facile. Moi, je pouvais me permettre de faire le suivi. J'ai dit, bon, garde, c'est quand même public, hein, c'est le... C'est des services publics. Je vais appeler puis je vais juste demander, je vais expliquer que je suis la marraine de Michel dans cette affaire-là, que je l'ai aidé à ouvrir le dossier et que je veux juste savoir comment ça se fait que c'est long comme ça. Tu sais, c'est-tu de façon très polie, évidemment, puis juste comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai appelé et j'étais stressée parce que moi, je voyais ces places-là comme une place où ils t'attendent avec, tu sais, vraiment avec une certaine fermeture en partant de vous êtes qui, vous, et tu sais, vous n'avez pas affaire à ça, vous n'êtes pas une victime. Et ça a été l'inverse, finalement. C'est là que je dis, c'est surprenant, hein, à quel point on ne sait pas à qui qu'on s'adresse dans nos enquêtes, quand on interpelle des gens. Puis au service correctionnel, j'ai parlé à un homme qui m'a dit même se rappeler de cette demande-là qu'on a faite. Et il m'a dit que, dans le fond, il y avait quelqu'un qui essayait de nous contacter avant, un petit peu avant les fêtes, le porte-parole, en fait, de la commission des libérations conditionnelles.
D'accord.
Car lui, au service correctionnel, ce qui est conjoint avec la commission un peu, là, ils peuvent se parler entre eux, tout ça, c'est pas le même service, parce que le service correctionnel, c'est pour avoir le dossier. Dans le cas de Marcel Lambert, il n'y a plus de dossier vraiment physique. Moi, je pensais que plus ça faisait longtemps, plus on y aurait droit parce que ça fait longtemps. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'à un moment donné, le scellé termine, tu sais, ou des choses comme ça.
Puis en plus, il est décédé.
Il est décédé, il n'y a pas de représailles possibles. Il n'y a pas. Puis on est en présence du fils de la victime et du meurtrier. Peux-tu l'avoir? Donc, j'ai expliqué ça. Et ce qu'il m'a dit, c'est que c'est l'inverse, en fait. C'est que plus ça fait longtemps et l'ancien détenu est décédé, plus le dossier sera plus là pour des raisons tout à fait logiques. C'est que. Il ne reviendra plus en prison, force est de constater.
A priori, en tout cas.
C'est ça. Donc, il n'y a plus de dossier de Marcel physique. Donc, je devais me référer à la commission des libérations conditionnelles pour savoir, par contre, les choses qui sont conservées habituellement, c'est s'il y a eu demande de libération et s'il y a eu, évidemment, demande de pardon. Ça aussi, on voulait savoir à cause du fameux plumitif qui n'était pas trouvable. J'ai finalement eu le téléphone, j'ai laissé un message au porte-parole qui m'a rappelé assez rapidement et super sympathique lui aussi. J'étais quand même assez...
Ah ben, regardons ça.
Tout était étonnant finalement. Très, très sympathique. Avait fait une recherche conjointement avec l'homme des services correctionnels. Il avait trouvé le maximum de choses qu'il pouvait trouver. Et là, il m'avertissait d'emblée qu'il n'y avait pas grand-chose et que la raison pour laquelle ça a été long, c'est que justement, vu que ça fait très longtemps, premièrement, le dossier de Marcel Lambert était au nom de M. Lambert.
M. Là, point Lambert.
Pas, c'est ça, ben parce oui. que déjà, on se rappelle Marcel Lambert juste comme des personnes qui ont eu des infractions criminelles. Mm-hmm. Dans la même année même de naissance, il y en avait plusieurs. Dans toutes les années, c'est quelque chose, c'est un nom extrêmement commun, tu sais.
Oui.
Donc, M. Lambert, avec aussi des possibles erreurs d'entrée de données au niveau de la date de naissance, même si elle y ressemble, on est à deux jours près, fallait qu'il vérifie qu'on était en présence de la bonne personne, parce qu'évidemment, ils ne vont pas nous donner les informations d'une autre personne. Ça serait pas cool, parce que finalement, imagine, c'est complètement...
Marcelin Lambert qui sort...
Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui aurait ressemblé.
Oh, ça se comprend.
Puis là, on est complètement ailleurs, puis on capote avec ça, puis on en fait toute une histoire, puis finalement, c'est n'importe quoi. Bon, bref, c'est pas ça qui arrive. On a le bon, parce qu'on a vraiment les dates, mm-hmm. tout ça, ça corrobore. On a le... Mais ça a été très élagué, évidemment, le dossier, parce qu'il reste quelques entrées dans leur système informatique. Toutefois, les informations qu'il y avait étaient ceux qu'on recherchait. Principalement.
Ah, ça, c'est bon.
C'est ça. Donc, bon, premièrement, le verdict était bel et bien un homicide involontaire coupable qui a été prononcé, ça, c'est quelque chose quand même, le 28 mars 1978. On s'appelle qu'il a tué dans la nuit du 23 au 24 janvier 1977.
Oui. Donc, on parle de plus d'une année, et trois mois quasiment après les faits.
Ça,
c'est long, longtemps, ça, là.
Oui, mais on avait un indice parce qu'au mois d'octobre 77, le journal L'Avenir de cette île avait raconté, c'est-tu dans L'Avenir ou Le Soleil, en tout cas, bon, sur le blog, c'était écrit, hein,
oui.
Fait que j'avais mis les sources, c'était écrit que, dans le fond, il y avait eu un manque de juges, une pénurie de juges à cette île, donc il était en attente. Hein. Mm-hmm. Il y avait été aussi un temps à Robert Giffard pour évaluation psychiatrique, pour laquelle apparemment ils n'ont pas pu plaider avec ça, son avocat.
D'accord.
C'est pour ça qu'il avait pris la défense de l'alcoolisme et bon, médication peut-être.
Il a tué sa femme parce qu'on était en état d'ébriété, c'est bien connu.
C'est ça. Je savais aussi que son prononcé au pro forma de la sentence était supposé avoir lieu fin janvier ou quelque chose comme ça, 78, et là on voit que ça a été comme reporté de 2-3 mm-hmm. mois. Donc, 28 mars 78, il a eu son verdict. Homicide involontaire coupable. On lui a donné une peine de 3 ans.
D'accord.
Il est ressorti rapidement. Mais là, on n'est pas au bout de nos informations. Il a été libéré. En effet, il est venu chercher Michel en 1981. Dans le fond, la fin de sa peine terminait le 27 mars.
Lui, là, il a fait ses 3 ans de prison. Là.
3 ans moins un jour. Fait, 27 mars 1981, oui, mm-hmm. au niveau de la sentence.
D'accord.
Par contre, il est sorti en 80, un an avant. Donc, c'est plus choquant que prévu parce mm-hmm. qu'il est sorti aux 2/3 de sa peine. Donc, il est sorti le 27 mars 1980 sous condition. Donc, c'est probablement pour ça qu'il ne pouvait pas aller chercher son fils. Ses conditions, on ne les connaît pas. Ils ne pouvaient pas me le dire, eux, parce que c'est différent d'un détenu à l'autre.
Okay. Hein?
Parce que ça peut être un couvre-feu, ça peut être « j'ai pas le droit de fréquenter tel endroit ou telle personne », mais là, visiblement, probablement qu'il ne pouvait pas aller chercher ses enfants tout de suite. Puis on se rappelle, il amenait des chocolats de Pâques, là, avec, d'après moi, la sortie, c'est ça, c'est dans ces temps-là. Donc, il était sorti aux 2/3 de sa peine. Ce qui m'a assuré, c'est que c'était pas une sortie de détention pour un très bon comportement comme on a peut-être pu s'imaginer une fois qu'on a su par la famille d'accueil, bon, qu'il avait l'air quand même, il appelait toutes les semaines, tu sais, avait l'air quand même correct, là, un comportement socialement adéquat. Mais c'est pas à cause de ça qu'il est sorti de prison. Il est sorti aux 2/3 de sa peine, en fait, parce qu'il avait le droit de demander aux 2/3 de sa peine et il n'y avait rien qui faisait qu'il
c'était
ne pouvait pas.
C'était pratiquement un automatisme, dans le fond, si je comprends
Absolument.
Bien. Il pouvait demander aux 2/3, bon, ben j'ai le droit de demander une libération conditionnelle, je le fais.
Oui, le porte-parole des libérations conditionnelles ne m'a pas donné de choses subjectives, ne m'a pas donné ses théories
pas les détails,
à lui, parce que lui, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de me donner ce qui est écrit dans le dossier.
Okay.
Mais ce qu'il m'a dit, par contre, objectivement, c'est que c'était pas pas une libération méritoire, qu'ils appellent ça, c'est-à-dire pas à cause d'une conduite exemplaire en détention. Car s'il avait eu une conduite exemplaire et qu'il aurait eu une libération avant, ça aurait été au tiers de sa peine, donc il serait sorti en 79.
Oh my God!
Un an plus tard, c'est ça.
Un an après le verdict de culpabilité, il aurait pu sortir
exactement,
de prison.
Exactement.
C'est incroyable.
Oui. Donc, je ne sais pas, Jean-Philippe, si tu te rappelles qu'il y avait des lettres que Michel a encore, il me semble que c'était comme bleu poudre, là, de Marcel qui écrivait à partir de la prison.
Oui, oui.
C'était daté en 79 et qui disait, ils veulent rien comprendre, Ottawa, là, tu sais.
OK.
Faut appeler mon avocat, ils veulent rien comprendre, il dit ça
oui,
à ses
à
parents.
Fait.
Ben, c'est probablement, moi, c'est ma spéculation, qui a fait une demande de libération conditionnelle au tiers de sa peine qui n'a pas fonctionner.
C'est ça.
C'est l'impression que j'ai.
Il n'y avait peut-être rien qui justifiait justement une libération au tiers de sa peine. Et là, ça l'a rendu un peu en maudit. C'est ce qui explique un peu le.
Oui, parce
qu'il
que ça a pas l'air de quelqu'un qui. Il a l'air de quelqu'un qui pense que, bon, tout n'est jamais vraiment de sa faute. Donc, ça rentrerait dans l'ordre des choses. Donc, c'est pas une libération méritoire. Tout ce qu'on a, c'est ça. Il a fait une institution de mars à mai 78 à une institution que j'appelle A, parce qu'on ne sait pas c'est laquelle, et institution B pour le reste de sa peine.
D'accord.
Le porte-parole, il dit, je peux même pas vous dire à quelle détention, centre de détention il est allé. Je dis, ben moi, nous, on a son de cloche que c'est Coansville. Il a dit, ah, c'est possible. Il dit, moi, tout ce que je peux voir, par contre, il dit, c'est que le dossier nous indique quand même qu'il y a déjà eu une peine au fédéral de déjà purger auparavant. Donc, je pense qu'on parle peut-être de la fameuse arrestation des années 60, là, celle pour laquelle... ça, c'est un de mes questionnements. Ça, c'est ma curiosité personnelle, là, vraiment. Évidemment, on n'a pas de réponse encore totalement certaine à ce niveau-là. Ça a été ça, ma conversation avec lui. J'étais vraiment contente. Je l'ai remercié. Il m'a assuré qu'il a fait son possible pour trouver le plus d'informations. Mm-hmm. Il a même été un petit peu curieux. Ah, c'est quoi cette affaire-là un peu? Puis bon, lui, il en voit d'autres. Hein? Il a accès à tous ces papiers-là. Il n'est pas surpris des petites peines. C'est sûr qu'il ne se prononçait pas. Hein? C'est normal qu'il ne se prononçait pas. Je lui ai dit, moi, je ne m'attendais pas à ce que vous me dites. Écoutez, il y a certainement eu corruption, madame. C'est sûr que je ne m'attendais pas à ça, de toute façon, parce que je m'attendais juste à... J'ai dit, on n'avait même pas accès à sa sentence. Quand je lui ai parlé du fameux plumitif criminel qui n'était pas là, je lui ai assuré que j'avais tout fait pour le trouver. Il m'a dit, écoutez, je peux vous dire deux choses qui sont sûres. Sa sentence a été faite. Ça veut dire que l'histoire que lui connaissait des affaires sur des Maurice Duplessis quasiment,
oui,
c'était pas vrai.
Il avait dit dans le fond qu'il était sorti un peu grâce au fait qu'il avait été détective et puis qu'il savait
des choses. Puis...
Il a beaucoup enrobé, mais en fait, ça reposait sur absolument rien.
Ben, à moins que ce soit pour l'avant, entre le meurtre.
Ça reste une question. On en parlera peut-être après,
c'est
mais
ça,
oui,
absolument.
Effectivement, par rapport à la sentence, ça, on est d'accord.
Ça on sait pas.
Et la culpabilité.
Si on veut continuer à regarder une théorie un peu plus complot, mais en même temps, moi, je ouverte quand même parce qu'il y a de quoi de louche quand même.
Oui.
Lui, ce qui m'a assuré, c'est que sa sentence était complétée. Il n'y a pas eu d'histoire d'arrangement. Il n'y a pas eu de rien de ça.
Okay.
Et puis, il était catégorique, il n'y a pas de pardon. Il dit, je l'aurai au dossier, il n'y a pas eu de pardon. Il dit, il n'était pas du tout admissible à un pardon, puis je l'aurai ça. Ça, il dit, ce serait ça le pardon, c'est écrit. Il n'a pas eu. Donc, j'ai expliqué pourquoi que j'ai pensé à un moment donné dans mes théories qu'il faut avoir un pardon, parce que je ne trouvais pas le plumitif. Et bon, bien évidemment, on en conclut ça. Je m'en suis jamais caché. De toute façon, je pense que même dans le podcast, je l'ai dit, que ça se pouvait aussi qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus voir tout noir. C'est que peut-être qu'un oubli d'entrée de données. Il en suffit d'un.
Et oui.
Parce que par après, Marcel n'a pas eu l'air d'avoir une vie très... Il n'a pas eu de carrière criminelle à la suite de sa détention. Il a plutôt été, disons, plus que
sage.
Tranquille. Plus que tranquille à même se laisser aller pas mal à la maison jusqu'à décéder à 43 ans même. Donc, c'est ça.
Ce qui est bien là-dedans, c'est que dans le fond, tu as des réponses que tu n'as pas réussi à trouver dans les médias, que tu n'as pas réussi à trouver dans le fond. Oui, exactement. Donc, d'avoir ce genre d'informations, ça confirme ou en tout cas ça donne une idée assez exacte de qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas pour lui, en prison. À combien il a été condamné, on le sait, c'est 3 ans et il les a purgés et que il a pu bénéficier d'une on peut dire une remise de peine ou une libération conditionnelle, en tout cas
aux
deux tiers de sa peine. Donc ça, c'est quand même important.
Très important, oui.
Dans le fond, ce qu'on disait tantôt, c'est sûr qu'il reste quand même des éléments sur lesquels on s'interroge, comme pourquoi homicide involontaire?
Ben, c'est que l'homicide involontaire, là, en gardant mes réserves, en montrant que je ne suis pas non plus une professionnelle, c'est que une enquête du coroner, ce qu'on sait au moins, c'est que c'est pas une preuve, hein, c'est pas un procès, c'est pour enligner les suites, c'est pour faire la lumière sur un décès violent ou une mort douteuse. Et là, on a eu plusieurs personnes qui ont témoigné, tu sais, puis ces gens-là, on leur a parlé, à plusieurs personnes qui ont collaboré. Et là, on a un homicide involontaire, mais involontaire, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a pu se défendre de dire, ben non, c'est pas ça nécessairement, parce que, bon, peut-être que l'avocat criminaliste, en fait, a fait bien son travail de bien démontrer que Marcel, ça, on pourra jamais contre ça. Si ça a été accepté, ça a été accepté. T'sais. Par contre, j'ai l'impression que ça a été fait pas en catimini. Je veux pas non plus avancer des affaires, mais ce que je veux dire, c'est que c'est non retraçable. Il y a personne qui a été mandaté à nouveau pour témoigner.
Exact.
Quelle preuve a été faite pour ça? Ça va rester un questionnement qui est encore nébuleux et pour lequel, même si là, je suis contente parce qu'on a beaucoup de résolutions de questions, ça reste pour moi encore un cheval de bataille, ça reste pour moi encore un objectif à atteindre.
Oui, parce que moi, la question que je me suis longtemps posée et que je me pose encore aujourd'hui, c'est qu'ils avaient tout pour une bonne condamnation, une bien belle condamnation pour homicide volontaire. Les aveux de Marcel, même si il sortait d'un blackout, il a quand même reconnu qu'il avait le couteau entre les mains. Les témoignages du personnel médical lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il y a un certain nombre d'éléments qui, je sais pas, pour moi, je vois ça, c'est un dossier de rêve quasiment pour condamner quelqu'un à perpétuité, alors que ça a été requalifié en homicide involontaire. Ça fait partie, comme tu dis, des choses qui sont un peu encore nébuleuses, parce que quand on parle après, à partir du moment où on parle d'homicide involontaire, les 3 années peuvent s'expliquer. C'est juste la requalification qui est un peu spéciale quand même.
Oui, c'est ça, parce que en fait, est-ce qu'on peut faire ça? Ce qui est écrit dans les journaux, parce que c'est les seuls indices qu'on a sur ces procédures-là entre les lignes, ça disait que le ministère de la Justice avait accepté cette...
requalification des...
Oui, puis pour laquelle il a plaidé coupable, certainement, parce que là...
oui, 3 ans versus 15 ans ou 20 ans, on le prendrait-tu? Ouais. Hein?
Donc, c'est sûr que pour moi, il y a quelque chose d'injuste dans ça. C'est sûrement pas le seul cas, là. Il doit en avoir des camions-bennes de cas comme ça dans les archives. Mais ça reste que moi, pour moi, pourquoi c'est une quête qui est importante, c'est qu'on est en présence d'un homme qui a vécu tout ça, qui a été privé de la vérité et qu'il a fallu que je fasse tout ça, qu'on fasse, c'est-à-dire, parce que je vais en parler d'ailleurs tantôt, que je suis loin d'être la seule à m'être occupée de cette affaire-là. Grâce à plein de gens, ça a fonctionné, mais il a fallu que nous, citoyens, qu'on s'en mêle pour trouver des affaires qui, pour certains, il y en a peut-être qui vont rire, là, qu'eux, ils auraient fait ça en claquant des doigts. Ben merci, ça aurait été plaisant que vous le faites, c'est ça, tu sais. Parce que là, il n'y a personne d'autre qui va le faire, on va le faire. Et c'est de valeur parce que je me dis, il y a d'autres cas comme ça, puis d'ailleurs, ça a influencé des gens parce qu'on se fait écrire. Je me fais écrire par des gens qui ont été inspirés par l'affaire de Michel, sa quête, et qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur passé. Puis je trouve ça beau parce que ça vient donner un sens à ce décès tragique-là.
Ouais.
Je trouve que je suis pas tellement spirituelle de nature, mais ça, j'aime ça de me dire, ben si au moins on peut rendre le lait en beau, dans le sens où c'est pas beau ce qui s'est passé, puis on peut essayer de trouver du positif dans ça. C'est une démarche qui vient de Nora, dans le fond, des gens qui me demandent d'aller chercher des informations qui sont hyper difficiles à aller chercher parce que c'est des rouages compliqués.
Ah, il faut connaître, c'est sûr.
Ben pas juste connaître, on a des embûches pareilles, même si il y a des dossiers que je lis là au complet, puis que je fais, mais là, ça me dit pas plus. Ça, c'est quand même assez difficile pour tout un chacun. Puis donc, c'est ça.
Ça devient une inspiration, dans le fond, pour d'autres. C'est des réponses qui ont été données à Michel. C'est aussi peut-être des gens qui, en écoutant le podcast, se posent exactement les mêmes questions, mais ils n'osaient pas. Ils n'osaient pas peut-être creuser un peu plus, essayer de trouver des réponses. Parce que, comme qu'on disait, des fois, on ne sait pas par où commencer, dans le fond. Est-ce que c'est est-ce qu'on va trouver des réponses dans Google? Je penserais pas.
Ah, il y en avait pas ben.
Bah c'est ça, c'est ça.
Il y avait Christian Grafner de Coolopolis qui est un collaborateur avec moi qui est génial là, qui fait beaucoup de qui tient un blog en fait là sur beaucoup de d'histoires judiciaires, qui en avait parlé, c'était le seul. Et quand je suis retournée voir l'article, parce que lui il m'avait dit va voir un article, puis il m'avait nommé ça Coolopolis, je dis mais oui, je le connais lui. Puis quand je suis allée voir l'article, c'était un article en fait qui faisait état de la fameuse année fatidique de 1977, il y avait Nora et Marcel, puis en dessous, dans les commentaires, il y avait « Michel, c'est le meurtre de ma mère, est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver? » Puis ça, c'est venu me chercher parce que personne ne pouvait l'aider, parce qu'en fait, les gens ne se connaissaient pas. C'est une histoire quasiment enfouie. Et puis, Christian Grafner, lui, en fait, il avait trouvé ça en feuilletant les Allopolis au microfilm. Tu sais, évidemment, il était tombé sur celui-là. Lui, il avait fait comme une espèce de recensement de tout ce qui s'était passé en 77, car c'était une année vraiment... Donc, c'est ça. C'est les développements qu'on a eus, puis c'est des développements pour lesquels, pour l'instant, je suis très contente quand même, parce que pour Michel, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que pour toute famille de victimes, des dénouements, des développements... Pour lui, c'est pas un dénouement total. Hein. On s'entend qu'il y a des secrets de famille qu'on aimerait connaître. Hein. Oui. C'est sûr que lui, pour lui, il y a beaucoup de choses au niveau familial qu'on aimerait savoir, surtout la part de Jean-Guy. C'est pas terminé, mais les grandes questions, là, au moins, là, ce qu'on visait là, dans le milieu de la cible, on les a. Mais c'est sûr qu'il faut pas oublier que pour toute famille, c'est que quand on arrive à des développements, il faut aussi prendre le temps d'avaler la pilule un peu. Parce que, bon, Michel, il est fait fort, puis c'est quelqu'un de super résilient. Très, mais je lui laisse le temps de
digérer.
Un peu parce que faut pas oublier que c'est le fun de le savoir, hein? Mais c'est pas le fun en même temps de savoir qu'il y a eu, il est sorti aux deux tiers puis qu'il aurait même pu sortir après un an.
Exact.
C'est faut l'encaisser, ça, puis ça, je le comprends. Puis lui, il me l'a déjà dit aussi, on peut pas se mettre à sa place. On peut jamais se mettre à la place.
On peut imaginer, mais on pourra jamais ressentir ce qu'il ressent.
Non,
c'est ça, c'est bien
pas.
Important.
Puis ça, il me l'a bien dit, puis il a raison de me le dire. C'est correct qu'on me le dise. Puis je dis souvent, je pourrais jamais me mettre à la place d'une victime, mais je suis peut-être une des mieux placées pour me mettre à la leur de l'autre côté de la clôture, parce que après avoir lu tout ça, tu sais, je viens moi aussi impliquer un peu émotivement. Donc, je suis quand même en mine de comprendre que ça y prend, qu'il faut que je le laisse un peu absorber ces derniers développements-là.
C'est naturel,
même si,
on le ferait à moins, je pense.
Ouais, d'apprendre qu'il y a des gens là, de cette île qui se sont mobilisés, qui ont partagé, d'apprendre que aussi qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, ben moi, mon père, il a fait tel crime, puis justement, il avait déserté, puis on ne l'a plus jamais revu. Puis là, ça m'a donné le goût. J'ai écouté le podcast, ça a été dur pour moi, mais là, pourrais-tu, s'il te plaît, m'aider à... Lui, quand j'ai raconté ça, ça a été pour lui... Pas parce qu'il se confortait à savoir qu'il y en a eu d'autres, là, c'est pas ça. C'est de voir que ça peut prendre un sens. Toute cette fête-là a pu prendre un sens pour d'autres personnes. Je pense que ça a été un cadeau, ça, puis tous les gens qui nous ont aidés. Là. C'est sûr que dans les médias, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des enquêtes. Des fois, il y a une petite ruée vers l'or. Hein? C'est pas toujours évident.
Puis il y a une mode aussi, des fois.
Oui, c'est ça. Il y a la mode du crime.
Oui.
Avant, c'était ben, les gens ont toujours... Il y a toujours eu un auditoire ou des gens pour écouter les affaires sur le true crime. Mais c'était pas nécessairement la même mode qu'aujourd'hui où là, les gens consomment vraiment.
Oui, on parle vraiment d'un engouement.
Puis ça fait quand même un petit un an, deux ans. Parce que je le répète souvent, moi, avant, quand je disais ce que je faisais, je le disais plus parce que le monde trouvait ça... fallait que je me justifie même. Puis maintenant, c'est « comment fais-tu? » Puis là, bon, c'est ça. Dans un podcast comme ça, moi, je le répète souvent, je suis contente de le faire, puis je suis contente si les auditeurs aiment ça, mais moi, c'était pour des réponses surtout qu'on le faisait. Je vais essayer de faire le plus de qualité possible, mais la qualité va plus résider dans la recherche que dans les artifices.
Dans le fond, la qualité, tu le consacres au plus important, dans le fond.
Oui, c'est ça. Ben, je me dis.
Parce que ça reste l'enquête, le numéro un.
Oui, puis ça l'a donné quelque chose. Mais il faut le dire, c'est pas la dépoussiéreuse de crime, ni quiconque qui l'a fait avec moi qui a trouvé les réponses. C'est plein de gens en même temps, tu sais. Puis des fois, on oublie de nommer toutes ces choses-là. Moi, je trouve ça important parce que c'est ce qui fait qu'on peut peut-être en arriver à ça.
Oui.
Faut pas être avare de dire que les gens nous ont aidés. Bon, il y a eu évidemment ici Côte-Nord, là, Radio-Canada Côte-Nord, qui m'a fait une entrevue au départ du podcast et qui m'en a fait une récemment pour les dénouements. Celle-là, j'étais contente aussi pour que ça se partage à Sept-Îles, que les gens sachent à quel point ça a servi. Mais au départ, ça a été aussi important parce que, bon, les podcasts, c'est pas tout... Moi-même, j'en écoutais pas avant. C'est pas tout le monde qui va écouter ça, hein. T'sais, c'est pas... Surtout, on va se le dire, là, au niveau des statistiques, c'est pas tous les tranches d'âge qui écoutent les podcasts. Donc, moi, évidemment, avec mes vieux crimes, je ne rejoins pas nécessairement les personnes visées, tu sais.
Pas les bonnes personnes, en tout cas, non, c'est certain. Ouais.
Mais ça peut, comme... Puis en plus, j'ai une région cible qui est Sept-Îles. Ouais, tu sais, je suis pas dans le Grand Montréal ou Québec, ou tu sais, c'est très, très ciblé. Donc, le fait qu'eux aient passé une entrevue avec moi sur l'affaire à l'heure de pointe, un vendredi, je ne sais plus trop, ça a été vraiment bon parce que c'est là que j'ai été chercher des gens de Sept-Îles. Et là, à Sept-Îles, il y a toutes sortes de personnes qui sont des jeunes, des moins jeunes, qui se sont mobilisées pour partager ça. C'est bon, je peux pas toutes les nommer. Là, il y a Marie-Vicky qui m'a beaucoup aidée à essayer de trouver la famille d'accueil, trouver des gens qui ont pu aller à l'école avec le plus vieux frère. T'sais. La géographie un petit peu de la place à l'époque. Bon, j'ai eu évidemment Patrick Sirois, ancien journaliste, qui m'a beaucoup aidée.
Que vous avez eu en entrevue d'ailleurs il y a quelques épisodes. Hein?
Oui, absolument. Bon, évidemment, bon, toutes les autres personnes qu'on sait, il y a toi, il y a mon père, il y a, bon, Roxane, bon, les membres de la famille, comme Tante Vera, d'autres membres de la famille aussi que Michel a rejoint. Il y a eu, évidemment, des témoins de l'époque, là, Yvon Lamotte, qui a été super gentil avec nous, Mary, la sœur de la gardienne. Je veux souligner aussi, là, les groupes Facebook, il y en a un, il s'appelle Souvenance, à Sept-Îles, j'ai Souvenance.
Sept-Îles, j'ai Souvenance, oui,
ouais,
exactement.
C'est ça, donc, c'est j'aime ça le nommer parce que ça fait plusieurs fois, moi, que ça m'arrive de vouloir partager des cas de recherche que je fais sur des spotted même, là, tu sais, spotted de Montréal-Nord, peu importe, et que ce n'est pas accepté parce que le sujet est noir, tu sais. Je peux comprendre aussi parce que souvent, quand mes sujets sont postés, ben il y en a des gens qui n'aiment pas ça. Puis je les juge pas non plus, hein, tu sais, parce que c'est pas nécessaire.
Non, ils veulent pas voir ça, c'est tout simplement.
Puis des,
c'est leur choix.
Des groupes comme Souvenance, Sept-Îles, j'ai Souvenance, c'est des groupes plus de patrimoine, d'histoire, on se rappelle des belles affaires, on met des photos d'époque, tout ça. Ils ont accepté quand même de mettre le chose.
Oui, il y a plusieurs reprises
gens,
d'ailleurs.
C'est ça, puis il n'y a pas eu de gens qui ont été non plus très...
Pas disons, eu de commentaires négatifs, dans le fond.
Exactement.
En général, en tout cas.
Puis ben, je le souligne parce que c'est rendu rare qu'on accepte mes sujets sur les pages et c'est ça qui m'aide le plus. Souvent.
Puis ça provoque des discussions et puis il y a des gens, effectivement, qui se sont intéressés à cette affaire dans ce groupe-là et qui voulaient le partager, qui voulaient en parler. Et puis ça aussi, c'est, ça aide.
De tous les âges, hein?
De tous les âges.
De tous les âges,
tout à fait.
C'est ça. J'ai trouvé ça intéressant. Ça l'a permis aussi, là, ces partages-là, d'avoir des gens qui ont travaillé à la Renard, qui ont pu me parler un petit peu de comment étaient Jean-Guy et Marcel. Ça, j'ai trouvé ça intéressant.
Puis des fois, des détails, parce que là, tu parles un peu de la psychologie des frères Lambert. Tu sais, il y aurait bien des personnes qui diraient « Oh, ça sert à rien de lui dire que dans le fond, ils étaient un peu pas très agréables comme gars. » Mais c'est sûr que ça va pas tout de suite provoquer la résolution d'un problème. Par contre, ça va t'aider à comprendre comment étaient les personnes et peut-être recroiser avec d'autres témoignages. Donc, tout est important, même si il y a des auditeurs qui jugent que « Oh, c'est pas bien important, ça va pas l'intéresser. » Vous en savez rien. Des fois, là, il y a des petits détails.
Oui, une adresse.
Tout à fait.
Le prénom de la femme, ben, en généalogie, je peux aller chercher l'acte de mariage, savoir. Puis on s'entend que je fais rien de mal, hein, tu sais, ça a l'air du stalkage, là. Mais ça reste que c'est avec ça, c'est des petits filons. Des fois, les gens me demandent des affaires, puis à un moment donné, oui, mais j'ai la vieille adresse, mais ça fait longtemps. Non, donne-moi là. C'est absolument ça que j'ai besoin. Donc, évidemment, les deux familles d'accueil sur les trois familles d'accueil que j'ai rejoint, qui ont été très adorables, là, dont bon, je le nommerai pas parce que je sais pas si ça le dérangerait. Mm-hmm. Donc, le professeur à l'université là, qui a adopté beaucoup d'enfants, c'était vraiment une inspiration aussi, cet homme-là. Comme je disais, le porte-parole de la banque qui cherche, c'est niaiseux, mais c'est que il y a des personnes à qui on s'attendrait pas, puis d'autres qui vont, que c'est une fin de non-recevoir.
Un employé de banque. Voyons, tu sais, c'est comme, ben non, et puis vous me parlez de quelle année? Ben non,
il l'a pas trouvé, mais cette réponse m'a vraiment fait sourire. Ouais, c'est ça, tu sais, je m'attendais vraiment à écoute. Même pas un accusé de réception. Là. Bon, c'est sûr que j'oublie sûrement plein de monde, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la communauté qui aide beaucoup.
Oui.
Évidemment, les deux messieurs de la Commission des libérations et du service correctionnel, parce qu'en plus, ils ont été super gentils, ce à quoi je ne m'attendais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas un préjugé défavorable. Je ne veux pas dire qu'ils allaient m'attendre avec une brique puis un fanal, mais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus fermé comme attitude que ce que j'ai.
Ça peut se comprendre. Je pense que n'importe qui aurait pensé exactement la même chose.
Oui. pense que ça conclut bien. Hein?
Oui, puis moi, au nom des auditeurs, je voudrais quand même te remercier toi, Annie, parce que outre le sujet intéressant que tu as apporté, toutes tes recherches, tu as été une vraie chef d'orchestre de cette enquête et ça nous a donné tous envie de te suivre et puis pour certains d'entre nous de t'aider, de pouvoir t'aider et puis ça a été vraiment très intéressant, très palpitant. Je peux vous dire que juste de voir travailler, de voir comment travaille Annie, c'est très 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 inspirant et c'est ce que je voulais dire au nom des auditeurs en tout cas.
Merci beaucoup.
Une production originale H2O Web Media.